Et nous prenons donc les lectures du jour.
Alors, on lira d'abord dans Jérémie, livre 20, et les versets 10 à 13. « Car j'apprends les mauvais propos d'une multitude, effroi de tous côtés. Annoncez, annonçons-le. Tous mes amis m'observent pour voir si je vais chanceler. Peut-être se laissera-t-il duper, et nous l'emporterons sur lui. Nous nous vengerons de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros brutal. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion pour toujours. On ne l'oubliera pas. Le Seigneur des armées sonde le juste. Il voit les reins et les cœurs. Que je voie ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez pour le Seigneur, louez le Seigneur, car il délivre le pauvre de la main des mauvais. » Et dans Romains, ce sera au chapitre 5, les versets 12 à 15. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde. » Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de grâce d'un seul être humain.
Et nous prenons maintenant dans Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Nous sommes dans le discours que Jésus adresse à ses disciples au moment de les envoyer pour répandre son message. Et il les avertit que ce ne serait pas facile. Donc voilà. « Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. » Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne, c'est-à-dire dans les enfers. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père, qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'esprit qui nous le fasse vraiment connaître. Merci pour ces textes. Amen. Alors donc, nous avons aujourd'hui ces trois textes, mais je vais vous parler d'abord, de Matthieu, de ce passage de Matthieu que je viens de vous lire. Il commence par un « N'ayez pas peur ». Est-ce que dans ma traduction, c'était un ne craignez pas. Bon, ne craignez pas ou n'ayez pas peur, selon les traductions. Hein. Or, ce n'ayez pas peur, ce mot ou cette expression, ou ce sens au moins, sont répétés, je l'ai lu, je ne l'ai pas compté moi-même, 365 fois dans la Bible. En tout cas, donc, très souvent. Il y en a pour tous les jours de l'année. Et vous savez, vous avez quelques-uns de ces moments à l'esprit, quelques-uns de ces passages à l'esprit. Quand Jésus, par exemple, apparaît sur l'eau à ses disciples en pleine traversée de la mer de Galilée, son premier mot, c'est « n'ayez pas peur », parce qu'il croit voir un fantôme. Quand les femmes voient apparaître l'ange devant le tombeau vide, l'ange leur dit « n'ayez pas peur ». Quand Jésus se montre ressuscité à ses disciples, « n'ayez pas peur », c'est un appel à la confiance, à la foi au milieu des incertitudes, des menaces ou des souffrances. Dans ce passage, nous n'en sommes encore que dans la carrière de Jésus, qu'à l'époque où le message ne touche encore que quelques villages juifs de Galilée et l'une et l'autre bourgade environnante. Et pourtant, dans notre monde actuel, 20 siècles après, quoi de plus actuel que cette invitation à ne pas avoir peur ? Nous sommes le lendemain d'une déclaration du Conseil œcuménique des Églises en faveur de la liberté de culte pour toutes les religions en Terre Sainte. Là où les derniers chrétiens, héritiers des premières églises suscitées par Jésus en personne et par ses disciples immédiats, donc là où les chrétiens sont persécutés autant que leurs frères musulmans. En ces terres où le nombre des chrétiens de ces églises primitives est en continuelle diminution. Ces femmes et ces hommes résistent aux humiliations, aux spoliations, aux violences, aux expulsions et parfois aux massacres. Ils ne méritent pas plus que Jérémie qu'on les dénonce ou qu'on les pourchasse. Dans notre texte, l'appel à ne pas avoir peur est énoncé par Jésus lui-même. Il s'adresse aux disciples, donc au moment de leur envoi en mission, et d'abord, et ça il le précise plus haut, et vous l'avez peut-être entendu le dimanche dernier, hein, et d'abord auprès, il les envoie auprès de leurs frères juifs, qui sont des brebis perdues de la maison, ceux qui sont des brebis perdues de la maison d'Israël. Bien sûr, nous voyons ailleurs Jésus opérer un miracle en faveur d'une femme syrophénicienne, ou encore s'adresser à une samaritaine, ou inviter ses disciples, tout à la fin, au chapitre 28 de Matthieu, de toutes les nations faire des disciples. Mais, c'est vrai, on ne peut pas convertir d'un coup la terre entière avec de bons principes généraux. Il faut être pratique, pragmatique, et commencer au plus proche. Et ce discours, c'est d'autre part, nous l'avons dit, au beau milieu du discours, ce qu'on appelle le discours apostolique de Jésus, apostolique, c'est-à-dire adressé aux apôtres, dont le mot, enfin ce nom d'apôtre, signifie les envoyés. C'est donc le discours prononcé par Jésus pour prodiguer ses conseils aux disciples qu'il envoie propager son message. Et Matthieu y a rassemblé, dans ce texte, y a rassemblé tous les conseils que le Christ a pu formuler, et peut-être aussi que les apôtres après lui ont pu formuler, à ceux qui partaient en mission pour répandre la bonne nouvelle de la grâce. Et ces conseils, ce sont d'abord des appels au courage et à la confiance, comme on vient de le voir. Alors pourquoi les disciples ne devront-ils pas avoir peur ? Nous savons très bien ce que les notables de son propre peuple, prêtres, scribes et pharisiens, feront subir à Jésus lui-même. Mais sans doute que dans l'après-coup de la rédaction de l'Évangile, ces paroles apparaissent d'autant plus prophétiques que, par exemple, les églises naissantes ont déjà connu la lapidation d'Étienne, les tribulations de Paul, la mort de Jacques, qu'on dit frère de Jésus, ou les chrétiens crucifiés en l'an 64, accusés d'avoir allumé le grand incendie de Rome sous Néron. Pierre lui-même aurait été crucifié entre 64 et 68. L'évangile de Matthieu doit dater des années 80, par exemple. Et les Juifs, ou peut-être un peu après, les Juifs dans leur ensemble ont connu, en l'an 70, la destruction et le pillage du Temple de Jérusalem. Matthieu semble avoir rédigé son évangile après cet événement, en tout cas. Et c'est justement à cause de ces persécutions déjà éprouvées au temps de Matthieu, et comme le versant positif du discours, comme un rappel aussi de ce que le prophète Jérémie avait déjà subi, que nos versets contiennent ces annonces de persécution. « Vous serez tous haïs à cause de mon nom. Il faudra aux disciples fuir de ville en ville chaque fois qu'on les chassera. » Mais nous venons de voir, et nous venons de voir que ces persécutions n'ont pas disparu de notre actualité. Comme en atteste déjà Paul, en appelant à la résistance, pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. 2 Corinthiens 4, 8. Mais nos versets contiennent le versant positif du discours aussi, c'est-à-dire des injonctions aux apôtres et des promesses qui, elles, sont tout à fait galvanisantes. Et la première promesse, c'est celle de la publicité que va recevoir le message évangélique, et justement en commençant par ce que feront les disciples, les envoyés. Jusque-là, bien sûr, Jésus était très charismatique, son sermon sur la montagne a été tout à fait révolutionnaire, ses signes et ses miracles se sont multipliés, mais le message était demeuré plus ou moins confidentiel, livré aux bouches à oreille, dans les maisons privées ou dans les synagogues des villes et les villages parcourus en Galilée et aux alentours, avec juste ce rassemblement sur la montagne dans un endroit désert. L'essentiel était donc resté réservé à l'enseignement aux disciples et notamment aux privilégiés, dont les 12 noms viennent d'être énumérés au verset 2 à 4 du chapitre. Mais le message devra à présent être diffusé, et non plus caché sous le boisseau d'une semi-clandestinité ou dans l'intimité d'un cercle d'amis. Et la promesse d'une diffusion réalisée précède même l'injonction à diffuser. Rien n'est voilé, dit Jésus, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. C'est une promesse d'apocalypse, en fait, parce que le mot même est employé sous sa forme verbale. Une promesse d'apocalypse, donc de révélation, qui porte sur l'invincible pouvoir qu'a la vérité de s'imposer aux esprits de tous. On n'a qu'à penser aussi à la vérité scientifique, sa portée en principe universelle, ou alors ce n'est pas de la science. Donc cette promesse, en même temps, elle s'oppose à un courant qui est présent dans le monde juif d'alors et qu'on appelle gnostique, c'est-à-dire un courant ésotérique. L'idée que les messages, la vérité des messages est partagée à un petit nombre seulement. Et donc cet ésotérisme s'oppose à une révélation publique au grand jour. Ce que je vous dis dans l'ombre, dit Jésus, proclamez-le sur les terrasses. Qu'est-ce que c'est que ces terrasses? Eh bien, ce sont les toits plats des maisons du Levant, où on passe ses soirées à l'air libre, après les touffeurs de la journée, en causant entre voisins d'un toit à l'autre. Cet arrière-plan gnostique ne fait que souligner l'appel à publier le message. Le message de Jésus vraiment ne doit pas rester caché. Le salut est proposé à tous. Or, malgré l'invincible puissance de la vérité et de la grâce, le danger demeure. Dans l'ordre des événements qui sont racontés par Matthieu, on va bientôt dans le chapitre 11, hein. Là on est dans le chapitre 10, et dans le chapitre 11 on coupera la tête à Jean-Baptiste. Donc, en d'autres termes, inutile de prendre des armes quand même pour se défendre, comme le faisaient les Zélotes. Inutile aussi de fuir au désert, comme les Esséniens. Il va falloir accepter de subir s'il le faut. Car Jésus rappelle que ce danger, le danger qui est attendu, ne va concerner, si on suit bien ses préceptes et son invitation à diffuser le message, le danger ne va concerner que le corps. Et il permettra précisément à l'âme de triompher. Donc voilà, le corps sera menacé, oui, mais si vous diffusez le message, vous allez pouvoir triompher. Et il ne s'agit pas de faire donc comme les Zélotes, c'est-à-dire de prendre des armes, puisque le corps, notre corps est menacé. Il ne s'agit pas non plus, comme les Esséniens, de se réfugier au désert. Non, il faut aller au milieu des gens. Il faut dire la vérité. Il faut dire la grâce. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça, le problème. Alors, bon, ici, il s'agit de dangers très forts. Hein. Bon, ce que j'ai évoqué en Terre Sainte aujourd'hui aussi. Mais, en fait, nous sommes peut-être tous des héros d'un certain combat ordinaire. Celle qui nous permet de nous lever tous les matins avec le courage d'affronter une journée plus ou moins rude. Je pense aussi aux détenus de Fresnes qui sont assidus à nos cultes et qui chantent en chœur pendant les promenades, mais toutes, hein, même celles qui ne viennent pas au culte, elles chantent en chœur une sorte d'hymne qu'elles répètent comme une ritournelle. Alors je ne vais pas vous le chanter, mais fidèle ami de mon cœur, je vous dis les paroles, fidèle ami de mon cœur, vaillant héros de mes combats, dans la douleur, je redresse la tête, je t'apporte la louange de mon cœur. Alléluia. Alors, il faut reprendre Alléluia très rapidement, etc. Donc, c'est un chant extrêmement dynamique et vraiment, elle chante ça avec une grande, un grand enthousiasme. Et c'est une façon de dire que la prison ou l'adversité n'entament absolument pas leur courage ni leur foi. Et nous aussi, nous ne sommes corps et âme sous la protection de ce vaillant héros de nos combats qui est chanté par les détenus de Fresnes. Le texte insiste ensuite sur le corps, sur nos corps qui auront à souffrir. Alors qu'est-ce que Jésus essaie de nous expliquer ici sur les souffrances corporelles ? C'est une chose importante. Il explique que certes, l'âme, ce qui en nous est conscience et en même temps reconnaissance des dons de Dieu et de notre responsabilité à leur égard, donc notre âme vaut plus que le corps. Mais notre corps aussi est sous la protection de Dieu, même dans le danger, même quand il est attaqué, même quand il est tué. Alors comment comprendre ce paradoxe, puisqu'il s'agit ici de consentir à le perdre, à risquer notre vie, à perdre notre corps, à risquer notre vie. Jésus introduit là une sorte de comptabilité de la valeur des corps. Il explique que deux moineaux, il rappelle que deux moineaux valent moins d'un as. Deux moineaux, ça veut dire qu'un seul va... Vous voyez, il n'y a même plus de pièces pour l'acheter, quoi. Chacun de nos chevaux est en même temps compté par Dieu. Mais c'est en tant que nos cheveux, les moineaux, ils appartiennent à Dieu. Et la mort des moineaux ne peut être conçue que comme une offrande. La disparition aussi, ou la destruction de notre corps, nos cheveux qui sont arrachés, par exemple, eh bien... ils appartiennent à Dieu Et quand ils sont perdus, c'est comme une offrande et bénie comme telle. Elle est bénie comme telle. C'est comme une restitution consentie. C'est comme une reconnaissance de la valeur de ce que nous offrons ou à quoi nous renonçons envers celui à qui nous devons tout. Deux moineaux, c'est peut-être que les plus pauvres offrent sur l'autel, comme le couple de tourterelles offert au temple par les parents de Jésus. Deux moineaux ne valent même pas un as, un sou à eux deux, de la poche d'un humain. Mais Dieu les a comptés parmi tous les êtres du monde créé. Il n'en néglige aucun, et la mort d'un seul pourra être agréée et sanctifiée comme une restitution. Soit s'il s'agit de mort naturelle comme un retour, donc sans perte, dans la grande calebasse des semences du monde, pour emprunter une image aux cultures africaines, soit comme une précieuse offrande qui sera magnifiée comme telle quand nous la donnons vraiment aux yeux de Dieu. Si du moins un pauvre parmi les pauvres acquiert ses moineaux pour les sacrifier sur l'autel du Seigneur. Et nous autres humains, quelle meilleure offrande pouvons-nous apporter que notre vie, quand c'est pour Dieu que nous la risquons? C'est là le sens du martyre et du sacrifice tel qu'on le concevait dans l'Antiquité et longtemps encore après, et ici l'Antiquité juive. C'est comme une reconnaissance de la beauté et du prix de la création jusque dans ses plus infimes détails, à commencer par notre corps. Un cheveu, chacun de nos cheveux compte aux yeux de Dieu, comme une offrande infiniment plus magnifique que les deux moineaux de tout à l'heure, si cette offrande, par exemple, est au prix de la vie. Chaque sacrifice vaut comme un hymne à la création. Aujourd'hui encore, quand nous cultivons notre corps et notre âme, quand nous le mettons au service d'autrui et de la création, c'est notre reconnaissance que nous exprimons. C'est une grâce rendue pour une grâce reçue. Et la grâce, nous dit Paul, a vaincu la mort. Désormais, par la grâce du Christ Sauveur, nous pouvons mourir. Nous pouvons même, selon une expression qui existe et qu'on peut interroger, nous pouvons même donner la mort par reconnaissance, comme on fait monter un parfum d'encens pour le Seigneur. Pour mieux comprendre ce que vaut chaque vie, prenons les choses à l'envers. Vous avez entendu parler des drones. C'est la dernière arme de guerre mise en œuvre dans les conflits actuels. Plus personne ne donne la mort. Ce sont les drones qui opèrent indistinctement. Ils sont programmés pour détruire et tuer froidement, impersonnellement, y compris parmi les populations civiles. Ici, un drone vise un père sur sa moto. Et puis, à 100 mètres de là, parce qu'une cible est une cible, il vise la petite fille que le père emmenait sur ses genoux et qui avait survécu à la première explosion et qui fuyait. Aucune vie, aucune innocence, aucune beauté n'a de prix pour les drones et pour ceux qui les programment et qui oublient ce qu'ils sont en train de faire. Une telle guerre vaut comme un écocide à chacun des coups portés, et le résultat de cet écocide, de ce saccage des créatures, de cet oubli des dons de Dieu et du prix infini de chacun de nos propres dons à Dieu est manifeste aux yeux de tous sur les théâtres des guerres et des prédations de nos économies malsaines. Je n'ai pas besoin de donner des exemples. Jésus se porte lui-même garant de la bonne économie de la création. Du souci de ses disciples à venir pour les créatures et de leur capacité de dévouement, qui est aussi une sorte d'économie du martyr, et je rappelle que martyr veut dire témoignage. Une économie du martyr dans la dernière phrase de notre passage. Je la relis. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Alors, devant une phrase comme ça, nos théologiens, choqués de l'idée que devant son Père, Jésus puisse témoigner contre certains, s'empressent de rappeler que l'affirmation négative n'est là que pour faire ressortir, selon une tournure courante en hébreu, l'affirmation positive qui précède. Comme un redoublement superlatif, quand par exemple je dis que je veux vraiment quelque chose, vraiment et pas seulement un peu. Après tout, Pierre a 3 fois renié Jésus et il n'a pas été rejeté pour autant. Il est même devenu le chef de la première église. Oui, bien sûr. Mais Pierre avait eu le temps de se repentir de son erreur et de la réparer. Pierre a eu peur, puis il s'est ressaisi. C'est normal d'avoir peur. Quelle meilleure occasion, justement, de mesurer le prix de ce que nous pouvons rendre à Dieu, et par là, le prix des dons de Dieu et de ce que nous pouvons lui rendre, de la reconnaissance que nous lui devons. N'ayez pas peur, mais comme Jérémie, commencez peut-être par avoir peur et dire qu'il faut avoir peur pour mesurer votre honte, pour dominer votre peur et reconnaître le secours de Dieu qui dès lors pourra témoigner pour vous. Et alors nous, comme église de témoins, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que Jésus pourra témoigner en notre faveur devant le Père Céleste? En tant que membre de l'EPUF, nous cultivons, vous le savez, un profil discret, tout en proclamant l'universalité du message. Nous ne forçons personne à nous rejoindre et nous admettons publiquement la pluralité des approches de la vérité, sans prétendre être les meilleurs. Cette retenue, elle est dans nos gènes, elle est même inscrite dans notre profession de foi et elle rejoint nos lois nationales de laïcité. Aucun de nous, je suppose, mais bon, peut-être que je me trompe, n'a participé à la récente marche de Jésus, où c'était surtout des évangéliques et des jeunes catholiques qui ont défilé, chanté, prêché avec haut-parleur sur 3 kilomètres du Panthéon à la place Vauban. Est-ce que c'était un défi à la République laïque? Bon, s'il ne s'agit que d'une manifestation comme toutes les autres, une manifestation pour Jésus, certes, mais peut-être aussi contre d'autres religions ou contre les incroyants ou les mécréants, je crois que nous faisons fausse route. Je crois vraiment que notre meilleur témoignage est dans le prix que nous donnons à la création, à notre responsabilité devant toutes les œuvres gratuites de Dieu, à commencer par notre responsabilité à l'égard d'autrui, de ceux qu'il nous est donné de rencontrer, et de nous-mêmes, corps et âme. Soignons, cultivons ces beautés, sachant y consacrer notre vie jusqu'à la mort, comme un don précieux au Dieu qui crée et qui sauve. Et sachons nous ressourcer quotidiennement dans cette idée et ensemble dans l'Évangile qui nous soutient. Amen.